7h13. Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
International.
Interview.
Interrogateur.
Intéressant.
Sur Haïti Inter.
Aucune réaction officielle n'a été enregistrée à Port-au-Prince jusqu'à présent, après la sauvage et barbare agression dont ont été victimes avant-hier soir le co-éditeur de l'hebdomadaire Jeune Presse, le pasteur Luc Néré et sa belle-sœur Anne Célestin. Car c'est bien d'agression qu'il s'agit. Il n'était question ni d'accident de la route, ni de bagarre. Tous les témoignages concordent à ce sujet. L'analyse des circonstances de l'attentat ne laisse non plus aucun doute. On est en présence d'une action préméditée, conçue dans le but de punir un journaliste et d'intimider les autres. On est en présence d'un groupe d'agresseurs qui savaient pertinemment qu'ils bénéficieraient de l'impunité après leur forfait. Sinon, ils n'auraient pas agi à visage découvert, au mépris des nombreux passants qui empruntent la route de Delma. L'agression, commencée aux environs de 8h30, a duré près d'une demi-heure. Selon un témoignage recueilli de la victime, l'un des agresseurs a clairement fait allusion au dernier article d'Hebdo Jeune Presse sur les VSN indisciplinés. Les témoignages sont unanimes. L'agression a été barbare et sauvage. Le pasteur Néré a été rossé de coups de poing, de coups de pied. L'un des agresseurs a défait sa cravate, la lui a passée au cou pour l'étrangler. C'est sous la pression de la cravate violemment tirée autour de son cou que le pasteur Néré a perdu connaissance. Cela ne suffisait pas aux agresseurs. Ils ont alors tiré le corps inanimé de la voiture, l'ont traîné dans la rue, lui ont asséné de violents coups de pied. Ils ne se sont arrêtés que quand ils l'ont cru mort. Ils étaient donc chargés de tuer. Qui leur avait confié cette mission? Car ces hommes avaient une mission. Enlever d'abord le pasteur Néré, puis l'exécuter peut-être dans un endroit obscur. Car après avoir doublé la voiture du pasteur, le véhicule portant le sinistre numéro 8428 a brusquement fait marche arrière, heurtant violemment le véhicule de la victime. Les agresseurs l'ont alors invité à descendre, à leur remettre les clés. Devant son refus, ils ont donné l'ordre à Anna Célestin, qui accompagnait le pasteur, de descendre à son tour, et devant le refus du pasteur, l'ont violemment frappé et l'ont projeté sur la chaussée. Anna Célestin a été relevée avec une fracture de la mâchoire. Plusieurs éléments conjugués ont donc apparemment fait échouer le plan. Le refus du pasteur de descendre de la voiture, la présence d'Anna Célestin, l'intervention du chauffeur du pasteur, qui revenait à lui aussi de l'église baptiste, et qui a reçu lui aussi de violents coups, celle d'autres amis et de fidèles baptistes, enfin l'attroupement qui s'était formé. D'autres membres du groupe, disséminés dans la foule, ont d'ailleurs frappé bon nombre de spectateurs. Aucun membre des forces de l'ordre n'est intervenu pour mettre fin au massacre qui aurait pu s'opérer. On était donc en plein western, ce mardi 13 décembre. On connaît la suite. Hier matin, des auditeurs ont signalé la présence de la voiture rouge 8428 circulant vers 9h à la Lue. Les spectateurs ont identifié deux des agresseurs connus comme VSN du Fort Dimanche. Nous avons appris que le pasteur Luc Néré s'apprêtait à adresser une plainte au commissaire du gouvernement de la République. Des informations non confirmées font état de l'arrestation de deux des agresseurs. Les journalistes haïtiens, le public en général, attendent avec impatience la décision des autorités haïtiennes compétentes. Cette tentative d'enlèvement en pleine nuit, suivie d'une sauvage agression contre un journaliste haïtien et un membre de sa famille, resterait-elle impunie? Question capitale pour nous tous et pour tous les citoyens. Les espoirs de libéralisation s'envoleront-ils en fumée? On attend la réaction du ou des organismes officiels concernés pour savoir si, comme l'a fait si justement remarqué un confrère, l'exercice du métier de journaliste en Haïti en cette fin d'année 1977 est un suicide. On attend aussi avec intérêt la réaction du comité directeur ou du secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens. Car, hélas, nous appartenons à une association. Alors, la question que je pose ce matin est la suivante. Après ce reportage sur l'agression dont vient d'être victime notre confrère le pasteur Luc Néré, agression signalée dans les quotidiens de Port-au-Prince, sous le titre, et je cite, « L'agression perpétrée sur le pasteur, sur la personne du pasteur Luc Néré, le nouvelliste. » Le matin, après un accident de voiture mardi, le pasteur Luc Néré, victime d'une agression non provoquée, signé Le Matin. La question que je pose est la suivante. A-t-on frappé à mort le printemps haïtien de la liberté? Notre printemps s'est levé un certain jour d'avril de l'année 1977, lorsqu'un jeune prince, affirmant un certain courage, avait dit à son peuple qu'il allait tenter de changer les structures surannées et défaillantes d'un système. Ici, à Radio Haïti, comme dans quelques cœurs patriotes, un frisson d'espoir avait couru. Je dis bien, ici, à Radio Haïti, et je le répète, ce frisson d'espoir était sans rancune et sans haine. Ici, à Radio Haïti, comme dans quelques cœurs patriotes, un frisson d'espoir avait couru. Mais une légère déception, quelques jours plus tard, avait assombri l'aube de cette liberté fragile. Nous avions cependant la foi que la jeunesse frémissante, mais sage, pourrait un jour accomplir ses promesses. Lentement, patiemment, nous avons attendu, en faisant de notre mieux pour aider à l'éclosion de ce printemps, en gardant toute la lucidité nécessaire à une si lourde tâche, suivant en cela l'exemple de nos ancêtres qui surent patiemment marronner leur maître en préparant Vertière. On a voulu nous faire croire que cette liberté toute fragile n'était qu'un cadeau venu d'ailleurs. On a voulu nous murmurer ici que cette liberté concédée n'était qu'une ruse passagère de la tyrannie. Mais nous avons cru, nous avions la foi que la jeunesse et la sagesse, héritées d'une longue tradition haïtienne de liberté, pourraient vaincre toutes les ruses des ennemis de cette liberté. Hier encore, nous applaudissions à chaque progrès timide, en nous disant et en disant à tous patience, cette prise de conscience, née dans les rizières de l'Artibonite, bien avant les tonitruants droits de l'homme, cette volonté de bien faire, mûrie au bord de notre fleuve nourricier, et comprise silencieusement par ce jeune prince et certains de ses collaborateurs, saurait surmonter lentement et prudemment toutes les embûches. Lorsque la réaction à ce merveilleux mouvement qui commençait à se dessiner, qui commençait à prendre corps dans le pays profond, se manifesta et s'articula, j'ai moi-même ici noté toutes les étapes de cette lente ascension. J'ai moi-même ici noté aussi que s'il existait une certaine liberté d'expression pour les ennemis de cette liberté, c'était la plus belle leçon que l'on pouvait leur donner à eux qui avaient toujours refusé à d'autres la possibilité d'articuler clairement désaccord ou simplement nuance. Mais la leçon de cette récente histoire, récente, troublante et cruelle, la leçon de cette récente histoire est cruelle. comme je l'ai dit, citant une phrase de Bertolt Brecht, « Le ventre de la bête qui enfanta le fascisme est encore fécond. » Fin de citation. Et notre confrère, le pasteur Luc Néré, vient d'en faire la tragique expérience. Certes, il existe, parmi les membres de cette profession de journaliste à laquelle il appartient, tant de membres qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Il existe parmi nous tant d'opinions différentes. C'est la fierté de notre jeune démocratie de proclamer ces opinions différentes. Tant d'opinions différentes sur le problème qu'il a soulevé. C'est ainsi qu'on aurait pu lui répondre que ceux dont il réclamait la dissolution comme corps constitué faisaient partie de classes sociales, de groupes humains de la nation qui, dans le passé, avaient été bafoués, méprisés, spoliés, dévêtus de leur dignité. Et que c'est cette dignité-là qu'il croyait avoir acquise en recevant un jour des mains de leur leader l'arme qui faisait d'eux des hommes, ravivant ainsi la foi de nos ancêtres, lorsque des mains de nos fondateurs, les anciens esclaves, avaient reçu le fusil de la liberté. Certes, cette arme a servi à nombre d'entre eux, mais pas à tous, à dépouiller, à spolier, à tuer, à assassiner leurs propres frères, dans les campagnes comme dans les villes. Une sourde rumeur se faisait connaître et montait des entrailles de notre peuple contre ceux qui avaient abusé des pouvoirs qui leur avaient été conférés par l'histoire. Nombre de journalistes se préparaient à rectifier, insistant sur la mutation sociale irréversible dont ce corps n'était qu'un reflet, insistant aussi sur l'impérieuse nécessité de dénoncer les crimes et les abus d'une petite minorité pour préserver l'essentiel des conquêtes de la grande majorité de ceux qui avaient bénéficié de cette mutation sociale indispensable au progrès de notre peuple. Voilà ce qu'on aurait pu dire très courtoisement, très fermement, très lucidement, mais très fraternellement à l'auteur de cet article. Et nous sommes certains, nous sommes profondément convaincus qu'en patriote haïtien, il aurait compris, il aurait accepté la différence, il aurait compris les nuances et l'analyse sereine et sage. Nous l'avons tous à cœur douloureusement ce problème qu'il a évoqué, nous l'avons tous à cœur cruellement. Mais notre lucidité d'haïtien ne peut nous faire ignorer la réalité de cette mutation sociale indispensable au progrès économique, indispensable à l'indépendance réelle de notre pays. Tandis que les crimes commis par certains ralentissent la marche de tout un peuple vers ce progrès et cette indépendance. Mais quelques coups de poing, une agression sauvage et stupide, une tentative d'enlèvement brutal ont tout remis en cause. Oui, tout est remis en question, tout. Les espoirs d'un peuple de se sortir par lui-même et dans la paix sereine, dans la sagesse et dans le calme. Les espoirs d'un peuple de se sortir dans la paix de la nuit de la terreur. Nous avons tout de cette liberté qui, pour une fois dans notre histoire, était le fruit d'une union que certains théoriciens auraient pu juger illégitime. L'union de la tradition libérale et de la tradition nationale. Mais ce sont eux qui avaient raison. C'était nous les chimériques, nous les quelques journalistes, les quelques leaders syndicalistes, les quelques étudiants. Nous les chimériques, nous, y compris le jeune prince. Tout a été remis en question, et même a été remis en question ce corps tant décrié par certains. Tant décrié par certains, mais secrètement chargé par d'autres de certains espoirs d'indépendance. Oui, ce geste inconsidéré et stupide aura une étrange et contradictoire conséquence. Il a l'air d'être la réaction de vengeance de membres de ce corps, craignant de perdre leurs privilèges. Mais les spectateurs qui ont assisté au carnage, les auditeurs qui ont écouté les reportages, les milliers d'Haïtiens qui se sont racontés en chuchotant que la terreur s'était à nouveau manifestée et que la mort à nouveau planait sur les rues, tous ces gens seront à présent sourds à la dialectique subtile des différences intellectuelles entre le bon et le mauvais, entre l'humble mais militant citoyen, fier du pistolet signe de sa dignité, et le sordide truand qui ne résonne qu'en termes de propriété à dérober, de magot à accumuler. L'opinion publique peut à nouveau être sourde aux nuances, mais elle sera comme nous dorénavant muette. Car, par-dessus tout, ce brutal attentat, comme l'a dit hier un de nos confrères de la radio, par-dessus tout ce brutal attentat rétablit à nouveau un silence lourd de notre résignation, lourd de notre terreur. Oui, prince, les journalistes ont peur. Ils sont terrorisés, nous avons peur. Et c'est peut-être la dernière fois que je le dis à ce micro, j'ai peur. Depuis quelques jours, des menaces se faisaient, bruit autour de nous, des menaces se précisaient. Fardin l'a dit dans le petit samedi soir, des coups de téléphone anonymes, des racontars, des histoires qui circulaient, des portes qui claquaient, qui se fermaient sur nos questions, des oreilles sourdes à nos interrogations. Nous avons peur, prince. Nous sommes tremblants de peur et nous allons nous taire. Et c'est bien la dernière fois que je le dirai ici à ce micro. Si les tueurs de Delma m'en laissent le loisir, je ne parlerai plus ici dorénavant que de choses familières, comme au temps longtemps du silence, que de choses futiles, cinéma, théâtre, livre, faits quotidiens, mais jamais de politique. Et encore, évidemment, en évitant soigneusement les allusions, oui. Ils ont remporté la victoire. Un sentiment général se fait jour ce matin, 15 décembre, dans la profession. Nous devons à nouveau nous taire. Mais leur victoire est comme celle de Pyrrhus, précaire, car c'est la victoire sur la liberté. On a tenté une fois de plus d'assassiner la liberté à Delma. Et cette tentative d'assassinat remet tout en cause. Le printemps, le dégel, la normalisation, mais aussi les problèmes économiques qui se poseront à notre pays, petit pays sous-développé, tant convoité par de grands, par de puissants voisins. Tout est remis en cause. Notre enthousiasme et notre générosité pour aider à faire éclore ce printemps. Tout est remis en cause. Et nous avons même peur pour le prince. Merci.
Pour vous informer, pour vous distraire, Haïti Inter.